Bonsoir. Je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Carlos Aguilar. Je travaille à l'Université de Limoges. Donc, je fais de la recherche académique. Donc, bon, pas de cravate, costume. Par contre, pas de marketing non plus. Je me suis intéressé à l'analyse du trafic dans les communications à très faible latence. Et donc la voix sur IP est un exemple d'application très en vogue. Donc j'ai fait ces travaux avec Yves Desvart, ici présent, donc du LAS CNRS à Toulouse. Et il y a un problème, c'est que la protection contre l'analyse du trafic, quand la latence des communications est faible, est vue comme quelque chose de relativement infaisable. Ou au moins, disons que donner des garanties fortes contre l'analyse du trafic semble quelque chose de très difficile à faire. En effet, c'est pas vraiment facile, mais je suis relativement convaincu que contre l'avis de la plupart des professionnels comme Monsieur Zimmermann, celui de Monsieur Zimmermann qu'il nous a présenté avant-hier, il est possible donc de donner des garanties très fortes contre cette analyse du trafic dans certaines situations. Bien sûr, avec des sacrifices, avec des coûts importants, mais c'est quand même possible de le faire avec des garanties donc très très fortes. Donc, le problème de base est celui de la protection des métadonnées d'une communication. En effet, dans une communication, il y a les données qui composent donc cette communication, en particulier donc ce qu'on dit pendant la communication voix sur IP, mais il y a plein de métadonnées comme l'identité des interlocuteurs, la durée de la communication, le moment de la communication, le type de communication, le volume de données échangées, etc. Donc, toutes ces métadonnées, il est important de les protéger dans beaucoup de situations. Et dans le cadre de la voix sur IP, ce qu'on échange, ça va être des messages, donc, qui vont donner une grande partie de cette information. Donc, bien sûr, en attaquant, on va pouvoir s'intéresser au contenu des messages échangés lors d'une communication voix sur IP. Mais en fait, dans beaucoup de situations, il va juste s'intéresser, par exemple, à l'en-tête de ces messages pour savoir qui sont les interlocuteurs. En effet, quand quelqu'un se connecte au site des Alcooliques Anonymes, ce n'est pas très important ce qu'ils se disent entre eux. Ce qui est important, c'est l'identité de la personne qui est en train de se connecter à ce site. D'autres fois, il va juste s'intéresser à l'existence de ces messages. En effet, l'existence de certains messages peut dévoiler la présence d'une personne devant un ordinateur et donc mener à des problèmes de localisation importants. On sait tous qu'il est possible de chiffrer les contenus des messages, même si ce n'est pas toujours fait, même si ce n'est pas toujours bien fait. En principe, d'un point de vue de la recherche académique, on sait que c'est faisable dans la plupart des situations. Par contre, chiffrer les en-têtes dans un réseau, ce n'est pas vraiment facile, parce qu'il faut router ces messages, il faut les relayer jusqu'au destinataire, et chacun des intermédiaires a besoin de ces informations. De la même façon, au moins dans les réseaux filaires, il est très dur d'occulter ces messages. Quand un attaquant observe une liaison filaire, en principe, il peut voir tous les messages qui y circulent. Donc, dans beaucoup de cas, ce message ne va pas pouvoir être occulté. Donc, ces problèmes, cette difficulté à occulter certaines méta-informations portées par ces messages, dans le contexte de communication, on peut mener vers savoir qui communique avec qui, donc quand est-ce qu'un utilisateur communique, et le nombre de communications, le volume de communications qu'il y a dans un réseau donné. Les problèmes de sécurité dérivés, ben, il y en a beaucoup. Les plus simples à voir, c'est la localisation et les inférences sur le contenu. Je vais vous présenter quelques exemples. Bon, comme on est au CELAR, je vous ai donné quelques exemples militaires. Bon, ça, c'est tiré de, je pense, un jeu sur Internet. Je n'avais pas beaucoup d'images sur des sites militaires. Mais c'est supposé, donc, avec les petites antennes, être des centres de commandement. Et d'autres, c'est des ressources militaires du genre des troupes. En observant d'où émanent les communications dans un réseau militaire, on va pouvoir savoir si un officier, par exemple, se situe dans un centre de commandement ou dans un autre centre de commandement. On va pouvoir localiser donc qui est en train de diriger les opérations et depuis où il est en train de le faire. Ça peut donc mener à un problème de sécurité important. Dans un bâtiment sensible qui peut être une ambassade, un centre de recherche, ou une industrie quelconque. Donc, les adresses de la personne qui est en train de communiquer va pouvoir souvent dévoiler, au moins aux personnes qui connaissent bien le réseau, la localisation exacte dans le bâtiment de cette personne. Bien sûr, la localisation peut être un problème grave de sécurité. Dans un contexte industriel, par exemple, savoir si quelqu'un est dans son bureau ou n'est pas dans son bureau peut mener à une simplification extrêmement importante de la possibilité de faire une effraction dans ce bureau. S'il n'y a personne, on arrive, on entre, on prend ce qu'on veut. Finalement, dans un contexte plus de protection de la vie privée, donc un travailleur comme moi, ça c'est un exemple, je travaille à Limoges, a plusieurs sites de travail et en fonction des méta-informations de mes communications, on va pouvoir savoir si je suis en train de travailler depuis le site de la fac de sciences, depuis mon laboratoire au sein du département informatique ou depuis chez moi. Donc ça c'est les problèmes de localisation. Mais il y a aussi des problèmes d'inférence, inférence des données, c'est-à-dire on va pouvoir apprendre des choses sur le contenu des messages uniquement par l'analyse des métadonnées et pas des données des messages en fait. Par exemple ici, si on a un avion furtif qui est en approche et une unité mobile de radar, on va par l'existence de la communication, d'une communication qui va apparaître lorsque l'avion approche entre l'unité de radar et un centre de commandement, comprendre que cette unité a détecté l'unité furtive, chose qu'on voudrait donc éviter pour qu'on ne sache pas donc quand est-ce qu'on a été détecté. Dans un bâtiment, on va pouvoir savoir quel type d'activité a ce bâtiment en fonction de quelle zone est plus ou moins active. Par exemple, dans un bâtiment de renseignement, si l'aile du Moyen-Orient d'un coup se met à avoir une activité téléphonique extrêmement importante, on peut comprendre que dans ce bâtiment, ils ont découvert quelque chose au Moyen-Orient ou par exemple en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. Pour le contexte donc plus de l'individu, en observant à long terme une personne, d'où est-ce qu'elle communique, quand est-ce qu'elle communique, on va pouvoir établir par exemple, peu à peu, c'est une observation à long terme, parce qu'elle est probabiliste, mais on va pouvoir établir un emploi du temps d'une personne et ainsi prévoir où est-ce qu'il sera dans le futur, ce qui peut mener à des problèmes sérieux de sécurité, mis à part bien sûr la protection de la vie privée. Donc pour protéger ces données, il y a des contraintes, parce qu'on est en voie sur IP, qu'il faut respecter. J'ai décidé de, arbitrairement, en essayant de m'orienter un peu par la réalité, de fixer des ordres de grandeur à respecter. En particulier, j'ai décidé de ne pas dépasser une latence maximale d'aller-retour de 250 millisecondes, étant donné qu'on parle d'une interaction bidirectionnelle par la voie, et d'avoir des minimums de bandes passantes entre 8 et 32 kilobits, même si, bon, à la fin, j'ai fini par choisir plutôt 10 kilobits par seconde. Bien sûr, tout ça peut être changé, les résultats ne vont pas changer fondamentalement. De façon classique, sur IP, pour protéger les méta-informations d'une communication, on va utiliser des relais. Donc, c'est là l'origine de que la plupart des gens pensent qu'on voit sur IP, c'est pas possible de faire de la protection contre l'analyse du trafic. Un relais, comment ça marche? Un relais, c'est donc ça va être un ordinateur qui va recevoir des messages chiffrés, en général, les déchiffrer, les cumuler, les désordonner et finalement les relayer. Ainsi, je vais vous montrer un exemple. Ici, Alice, Antoine et Anne vont envoyer trois messages chiffrés de même taille qui contiennent une requête HTTP chiffrée. Après avoir reçu ces trois requêtes, le relais va les déchiffrer, les réordonner et les envoyer au serveur finaux. En observant un attaquant, par exemple, la requête HTTP sortante vers la CNRS, il va avoir beaucoup de mal à savoir si ça correspondait au message de Anne chiffré, au message d'Antoine chiffré ou au message d'Alice chiffré. Donc, un attaquant extérieur va avoir beaucoup de mal à savoir qui est en train de demander quelle page web. On va dire que Alice, Antoine et Anne forment un groupe anonyme d'émissions de taille 3. Bien sûr, il y a un problème important, c'est que les administrateurs du relais ou un intrus qui arrive à accéder à ce relais va pouvoir obtenir cette information puisque c'est le relais qui déchiffre les messages et donc il peut faire un lien entre les messages chiffrés et déchiffrés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise plusieurs relais. Donc, dans un premier exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle une cascade. Donc, Alice, Antoine et Anne vont envoyer trois messages doublement chiffrés à un premier relais. Celui-là va enlever une première couche de chiffrement, les réordonner et les émettre à un deuxième relais qui va être placé sous une autre autorité. Cet autre relais va enlever la deuxième couche de chiffrement et finalement envoyer les messages au site web. Le premier relais va... J'ai un pointeur ici. Le premier relais va connaître le lien entre les messages entrants et ces messages qui transitent au milieu. Le deuxième relais va connaître les liens entre les serveurs web et ces messages entrants, mais il va falloir que les deux mettent en commun leurs informations, qu'ils forment ce qu'on appelle une collusion, pour qu'ils puissent faire le lien entre les utilisateurs et les serveurs web. En multipliant ce schéma, donc le nombre de relais, etc., en les distribuant partout dans le monde, en utilisant des relais anonymes fournis par des personnes volontairement, on arrive à des réseaux de type Tor qui peuvent couvrir des très 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 grands nombres d'utilisateurs et donc fournir des services d'anonymat efficaces avec des garanties fortes, mais avec un très grand problème, c'est que vu qu'on passe par plusieurs relais sur l'Internet, on va se retrouver avec une latence très 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 importante, avec des problèmes de débit, avec une variance forte dans les performances, et donc on ne pourra pas l'appliquer à la voie sur IP. Donc les gens, quand ils pensent protection d'analyse du trafic, ils pensent utilisation de relais, utilisation de plusieurs relais, et ils se disent, ça va, c'est pas possible, on a besoin d'une latence trop faible. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben nous, on va s'efforcer d'utiliser un seul relais. Le problème, c'est qu'il va falloir construire un relais dans lequel on a confiance. Et comment on va avoir confiance dans ce relais? Ben c'est simple, on va faire un relais qui ne comprend rien à ce qu'il fait. Il ne va pas être capable de savoir si il y a un utilisateur donné qui communique avec un autre utilisateur donné. Étant donné qu'on utilise un seul relais, il va y avoir la possibilité d'un observateur qui va pouvoir observer le système globalement. Donc il va observer par exemple l'ordinateur en question, il va pouvoir observer toutes les entrées, toutes les sorties. Ça va être un modèle d'attaquant très fort. Et du coup, pour éviter qu'il soit capable de déduire de données comme quand est-ce qu'on commence une communication, quand est-ce que quelqu'un commence à recevoir une communication, pour éviter qu'à partir de là, il puisse inférer quand est-ce qu'on communique, nous, personnellement, et quand est-ce qu'on ne communique pas, il va falloir qu'on soit ce qu'on appelle le non-observable en émission, c'est-à-dire que l'attaquant, quelqu'un qui nous observe, ne soit pas capable de dire si on est en train d'émettre des messages ou pas. Il va falloir qu'on soit non-observable en réception, c'est-à-dire que quelqu'un qui nous observe ne soit pas capable de dire si on est en train de recevoir des messages ou pas. Bien sûr, ça, ça inclut les administrateurs du relais, si on veut pouvoir faire confiance dans le relais, donc à nouveau, que le relais ne comprenne rien à ce qui est en train de se passer. Pour cela, on dispose de plusieurs primitives. On dispose de deux primitives qui nous permettent de émettre de façon non observable et deux primitives qui nous permettent de recevoir de façon non observable. Donc la première primitive qui permet d'émettre de façon non observable est très simple. Je vais commencer par vous décrire ce qui se passe normalement. Normalement, quand on émet un message, même s'il est chiffré, un observateur va pouvoir le détecter. Si on émet plusieurs messages, il va pouvoir voir quand est-ce qu'on émet des messages, combien on a émis dans une unité de temps, quelle taille il faisait. L'utilisation de bourrage chiffré consiste dans l'envoi systématique à intervalles réguliers de petits messages chiffrés qui contiendront du bruit chiffré si on ne veut rien transmettre. Donc le destinataire, il va déchiffrer ces messages et voir qu'il y a du bruit, il va les ignorer. Et si jamais on veut transmettre des informations, ben on remplacera le bruit par de l'information utile. Donc on remplacera plus ou moins de bruit, bien sûr, on ne peut pas faire plus que remplacer tout le bruit. Si on veut émettre plus, ben, un attaquant va pouvoir voir une montée dans le trafic et donc observer qu'on est en train d'émettre. Étant donné qu'en principe, on peut transmettre avec un facteur d'expansion en émission de 1, dans ce cas, on va utiliser ce standard, c'est-à-dire dire qu'on émet sans facteur d'expansion dans ce cas, même si c'est vrai que quand on utilise moins de la bande passante, il y a un facteur d'expansion. C'est uniquement pour comparer aux autres méthodes. Il existe une autre méthode classique qui s'appelle donc l'envoi superposé et qui permet aussi d'émettre de façon non observable. C'est une méthode un peu plus compliquée. Je vais passer vite dessus pour que vous y croyez. C'est un tout petit peu technique. Donc, ça marche par tour. À chaque tour, les utilisateurs vont générer un message. Donc, composé de 0 s'ils n'ont rien à transmettre, et donc composé du message s'ils ont quelque chose à transmettre. Après, ils vont, dans ce même tour, générer un brouillage. Ce brouillage est généré à partir de clés qu'ils partagent entre eux, et a une propriété particulière, c'est que quand on somme les brouillages, étant donné qu'il est généré d'une façon particulière, ben ils vont s'annuler entre eux. Par contre, les utilisateurs sont incapables d'apprendre rien sur les brouillages des autres. Les utilisateurs ensuite vont additionner leur message à leur brouillage et émettre le résultat. Donc ça, en cryptographie, ça s'appelle du one-time pad, c'est-à-dire qu'on ne peut rien apprendre sur les messages clairs en observant les émissions. En particulier, on ne peut pas apprendre si ces messages sont composés de zéro ou de autre chose. Et ça, ça veut dire donc on ne peut pas savoir si la personne est vraiment en train d'émettre ou n'est pas en train d'émettre. Bon, maintenant, ça fait beaucoup d'émissions et tout ça, on les envoie, toutes ces émissions sont envoyées à un serveur qui va simplement réaliser l'addition de ces messages. Et bien sûr, les brouillages vont s'annuler entre eux et il restera juste le message de U2. Donc, ce système permet d'émettre un message par tour à condition qu'il y ait un seul émetteur qui soit en train d'émettre. S'il y a deux émetteurs qui essayent d'émettre au même tour, ben, il y a une collision. C'est comme dans à peu près n'importe quel moyen de diffusion. Ces collisions, il faut savoir qu'elles se résolvent de façon très efficace. C'est-à-dire, s'il y a un utilisateur qui font une collision, ben, ça se résout en un tour. En un tour, on arrive à récupérer les n messages. Donc, les collisions avec l'envoi superposé, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, bon, il y a un problème fondamental à l'envoi superposé, c'est que tout utilisateur doit collaborer à tous les tours. Donc, s'il y a un utilisateur qui se déconnecte, le système arrête de marcher. S'il y a un utilisateur qui a son ordi qui plante, le système arrête de marcher. Et si M utilisateur essaye d'émettre en même temps, bah, il faut émettre M fois plus vite pour suivre le rythme à tout le monde. Donc, on a vu deux méthodes pour émettre de façon non observable. Maintenant, comment on peut recevoir de façon non observable ? Ben, l'idée, c'est de diffuser les messages à tout le monde. C'est ce qui se passe avec, par exemple, le journal ou la radio. Ça, c'est diffusé à tout le monde. Maintenant, qui reçoit un message qui est caché dans un journal, ben, on ne le sait pas. Tout le monde peut l'acheter. Donc, en informatique, on va pouvoir faire la même chose. Dans un réseau, quand on a un message à émettre, on va pouvoir diffuser le message à tout le monde, chiffré. Les personnes qui n'arrivent pas à le déchiffrer, ben, ils le mettent à la poubelle. Et celui qui arrive à le déchiffrer, ben, il reçoit le message. Un attaquant qui va voir les messages circuler, diffusés dans le réseau, il ne va pas savoir qui arrive à le déchiffrer, qui n'arrive pas, et donc il va y avoir une non-observabilité en réception. Le problème de cette technique, c'est que s'il y a n émetteurs qui sont en train de diffuser, ben, tout le monde reçoit n messages par tour. Donc le facteur d'expansion est proportionnel au nombre d'utilisateurs dans le réseau, et donc c'est une très mauvaise option. C'est pourquoi on a proposé l'utilisation d'un protocole qui vient du monde des bases de données, qui s'appelle le Private Information Retrieval, donc la récupération privée d'informations, qui donc, permet d'obtenir un élément parmi N sans que la base de données sache quel élément on a récupéré. Ça, c'est très important. Une manière très simple de faire ça, c'est récupérer toute la base de données. C'est ce qu'on fait à nouveau avec le journal. On ne sait pas quel article vous lisez dans les journaux. Vous prenez tout le journal et après vous lisez que ce qui vous intéresse. Par contre, quand vous allez sur news.google.fr, par exemple, vous cliquez sur un article et le serveur sait quel article vous êtes en train de lire. Ben, le pire permet de demander un article et que le serveur web ne sache pas quel article vous avez demandé. Ça peut se faire de façon très efficace au niveau de la communication, c'est-à-dire à la fin, on va recevoir un élément qui va être à peine plus grand que l'élément initial. Par contre, le coût calculatoire va être très important. Cette possibilité a un deuxième avantage, c'est que ça utilise des systèmes de chiffrement où on peut faire une mise sous séquestre des clés. Une mise sous séquestre des clés permet à une autorité compétente, par exemple en cas d'écoute légale, de dévoiler le secret. Et donc, cette autorité peut exister ou pas en fonction de qu'on utilise le mécanisme de mise sous séquestre de clés ou pas. Donc, on peut avoir un moyen qui est réversible ou pas en fonction des besoins de l'opérateur. Du coup, comme on doit émettre de façon non observable et recevoir de façon non observable, on peut créer donc, un serveur où on émet en bourrage et on reçoit en diffusion, un serveur où on émet en envoi superposé et on reçoit en diffusion. Ça, c'est deux serveurs que je vais vous présenter. Je vais vous présenter aussi ce serveur donc, où on remplace la réception en diffusion par la réception avec les protocoles PIR. Celui-là, je n'aurai pas le temps, c'est trop court, donc ça sera pour une autre fois. Les solutions basées sur la diffusion, donc ça va être le BBS et le serveur d'SNET. Je vais vous faire des cas d'études très rapides Donc, basé sur la voie sur IP, où je fais des suppositions que beaucoup de gens trouveront inexactes, mais c'est pas très grave. L'idée est de avoir des exemples pratiques. Donc, j'ai pris du 10 kilobits par seconde pour le canal et j'ai limité la bande passante que l'utilisateur dont l'utilisateur va faire usage pour cette application. En particulier, j'ai limité les gens à 10% de leur bande passante et dans tous les cas, au maximum 1 mégabit par seconde, c'est déjà quand même assez pour uniquement communiquer en voie sur IP. J'ai supposé aussi que la capacité des réseaux, si on est en local, était de 100 mégabits par seconde. Et pour l'Internet, j'ai fait des hypothèses relativement faibles pour être le plus général possible, donc avec ADSL ou UMTS. Donc à partir de là, je déduis des résultats que je vous présente pour chaque système. Donc le BBS, ça consiste à chaque tour, écrire par bourrage chiffré dans un serveur. Et donc, si on a quelque chose à dire, on écrit des messages à transmettre, mais si on n'a rien à dire, on écrit du bruit chiffré dans le serveur. Ce serveur, à chaque tour, va diffuser l'ensemble des messages, de telle façon que chaque utilisateur va essayer de déchiffrer chacun des messages, et quand il va trouver un message qui lui est adressé, on aura eu un message qui aura été transmis dans un sens ou dans l'autre. Après, dans la voie sur IP, il faut faire dans les deux sens, bien sûr. Et on va pouvoir donc émettre de façon complètement non observable, on ne voit pas qui émet, qui n'émet pas, et recevoir de façon complètement non observable. Au niveau des performances de communication, en émission, elles sont très bonnes, le facteur d'expansion est de 1. En réception, c'est beaucoup moins bon, il faut recevoir les messages de tout le monde, il y a un facteur d'expansion de N. Et en émission pour le serveur, c'est encore pire, parce qu'il faut émettre N messages par tour si on est en réseau local. Par contre, si on est sur un réseau où il n'y a pas un moyen de communication partagé, la diffusion va devoir se faire point à point pour chacun des utilisateurs. Donc il va falloir envoyer N messages au premier utilisateur, N messages au deuxième utilisateur, jusqu'à N messages au énième utilisateur. Donc la communication en émission pour le serveur va être en N carré. Vu les limitations qu'on s'est imposées dans un réseau de type Ethernet, on ne pourra pas avoir plus de 10 utilisateurs avec un tel système. Dans un réseau local, on pourra en avoir un peu plus. Mais à nouveau, il y aura une utilisation très peu efficace de la bande passante du réseau. On peut faire la même chose avec un serveur donc, qui va recevoir par envoi superposé et émettre à nouveau par diffusion comme le précédent. Bon, il faut que je me dépêche parce que sinon je vais être très en retard. L'idée est que ce serveur a un problème très 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 important, c'est que dès qu'une personne est déconnectée par un déni de service, parce que quoi qu'il arrive, le tour ne peut pas être exécuté. Il faut les messages de tout le monde. Donc pour avoir une qualité de service relativement acceptable, ce serveur est relativement inutilisable, même si intéressant d'un point de vue conceptuel. Il permettrait d'avoir des centaines d'utilisateurs dans un réseau, mais autant dans les réseaux à grande échelle qu'en réalité dans les petits réseaux, ça va être quand même quelque chose de relativement peu fiable. Donc, je vais vous présenter le PMX, qui est la variante que je propose pour réduire le coût des communications. Donc, dans un PMX, ça va marcher comme dans un OBBS, c'est-à-dire à chaque tour, tout le monde va émettre un message qui va être soit du bruit chiffré, soit un message avec de l'information. Et au lieu de diffuser ces messages à tout le monde, chaque utilisateur va faire une requête peer pour récupérer un élément de ce serveur. Donc le serveur va générer une réponse peer qui va avoir un petit facteur d'expansion, genre de taille 2 ou moins. Il va générer une réponse peer pour le premier utilisateur, une réponse peer pour le deuxième utilisateur, etc. jusqu'au énième utilisateur. Le problème de ce serveur, c'est que c'est très coûteux au niveau calculatoire. Le coût calculatoire est en n carré. Donc il peut gérer quelques utilisateurs, la mise à l'échelle, donc la scalabilité, si vous préférez, est assez mauvaise dans ce système. Par contre, si la puissance nécessaire pour le nombre d'utilisateurs augmente quadratiquement, pour le débit, ce n'est pas le cas. Elle augmente juste linéairement. Donc ce système peut être appliqué à des débits supérieurs sans problème. Et actuellement, on est donc au laboratoire Xlim à Limoges, en train de chercher, on va soumettre à crypto cette année, un protocole peer rapide qui permet d'augmenter grandement les capacités, les performances du peer au niveau calculatoire et donc de gérer beaucoup d'utilisateurs avec un tel serveur. De nos jours, avec les peers actuels, ces serveurs sont relativement limités parce que même s'ils sont pratiquement optimaux au niveau des communications, ils peuvent gérer que très peu d'utilisateurs, bien sûr, avec une unité centrale. Bien, le nombre d'unités centrales qu'on va mettre dans un serveur, ça ne dépend que de nous. Par contre, les infrastructures réseau dont on dispose, c'est un problème sur lequel on a beaucoup moins de contrôle. C'est pourquoi on pense qu'avoir une maîtrise importante et une limitation forte sur les communications est plus important que sur la puissance de calcul nécessaire pour augmenter le nombre de clients. Nous avons présenté cette année donc à NCA, au MIT, cet été, un article sur des variantes. En particulier, une variante qu'on a fait qui n'est plus en n fois n. Qui n'a plus un coût calculatoire en n fois n, mais en n fois m, m étant le nombre de communications. Imaginez par exemple un site avec 500 postes, si bien il y a n est égal à 500, le nombre de communications qu'il y a simultanément dans le site est beaucoup plus petit. Il va être de 2, de 3, et donc on passera de 500 fois 500 à 500 fois 2 ou 500 fois 3 dans le coût calculatoire. Du coup, avec une unité centrale, on peut gérer à peu près une cinquantaine de clients. Si on veut augmenter le nombre de communications simultanées possibles ou le nombre de clients, il faut augmenter le nombre d'unités centrales. Globalement, ça revient à un prix de revient de 10 euros par client et communication sans hardware spécialisé. Si on utilise du hardware spécialisé, on peut faire chuter ce coût. Étant donné le contexte qui serait donc agence de renseignement, militaire, industrie sensible, qui est un contexte donc de sécurité extrêmement fort, c'est peu probable que ça soit utilisé avec des softphones. Probablement, ça sera donc avec des téléphones VoIP qui, de plus, devront faire du chiffrement. Donc, des téléphones, donc un coût par utilisateur relativement important. Donc, le coût qui va être induit par l'anonymat est relativement raisonnable. Et ainsi, les conclusions, je suis un peu en retard, c'est que dans un réseau local, on peut utiliser un système de type BBS quand il y a peu d'utilisateurs pour être fortement protégé contre l'analyse du trafic. Si on en veut plus, il faut un réseau dédié, donc et pas un VLAN, mais un réseau dédié à ce système de communication, ou sinon passer dans le système de type APMX. Donc APMX, c'est ce que je vous ai présenté tout à la fin. Sur Internet, il y a donc un seul système qui semble utilisable si on veut respecter les contraintes de communication, qui serait donc l'APMX, qui a un coût raisonnable tant qu'on n'a pas trop d'utilisateurs. Ce système ne servira jamais pour Skype, pour des millions d'utilisateurs, sauf si on fait des sous-groupes de petite taille à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier que même si c'est en n fois m, ce système, si on a des millions d'utilisateurs, ils vont avoir des milliers de communications. Donc, au bout d'un moment, M quand même grandit aussi linéairement, moins vite que N, mais M va grandir linéairement aussi et on ne pourra pas faire beaucoup plus. Au niveau des perspectives, on est en train donc d'essayer d'améliorer le coût calculatoire. On veut implémenter un PMX APMX. On commence d'ailleurs à partir de cette année avec des membres du laboratoire. On veut travailler aussi sur l'anonymisation de la signalisation qu'on a commencé à regarder d'un point de vue recherche. Ce n'est pas très compliqué à faire. On voudrait cependant formaliser cette anonymisation pour donner des propriétés de sécurité fortes. Et bien sûr, on cherche des partenaires industriels. Je fais un peu de pub finalement, j'ai menti. Donc si des gens sont intéressés, donc développer, donc la technologie est prête. Si on veut faire des prototypes, on veut tester ça et développer, amener ça au marché, faire du transfert technologique. Si des gens sont intéressés, on est prenant.
Donc nous remercions l'orateur et il y a une place pour une question et les questions suivantes seront posées dans le débat. Question ?